Archives RTF, 1971.
Ainsi, vous avez fini par connaître le capitaine Dreyfus lui-même.
Ah, bah oui, quand il est revenu, que lui dit diable. C'était terrible de le voir.
Henriette Psicari, jeune Dreyfusarde, fut frappée d'effroi en voyant Alfred Dreyfus à son retour en métropole.
Il était vraiment, comment puis-je dire, pas seulement abîmé physiquement, oui d'abord, évidemment, mais enfin pas seulement abîmé physiquement, mais aussi moralement. On sentait qu'il y avait un trou dans la vie de cet homme, un trou tragique, un trou d'exil, un trou d'injustice, un trou de misère.
Après 5 ans de captivité, le capitaine Dreyfus arrive dans un sale état pour la révision de son procès à Rennes, et c'est la trame de cet épisode.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
Le 3 juin 1899, après des mois d'insultes et de violences physiques de la part des nationalistes à l'encontre des Dreyfusards, la révision du procès Dreyfus est enfin décrétée.
La Cour casse et annule le jugement rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier conseil de guerre. Vous vous rendez compte, capitaine ?
Le capitaine, victime d'une machination judiciaire en 1894, s'apprête donc à revenir sur le vieux continent dans un climat social tendu et délétère.
Les vrais Français sont barbouillés de fientes et de crachats par les juifs, les cosmopolites, les nomades qui insultent et salissent la France.
Aux yeux des anti-Dreyfusards, mieux vaut l'injustice que le désordre. Et de fait, ce nouveau procès à Rennes les ulcère. Alors, comment s'est déroulé le second procès Dreyfus ? Et a-t-il pu apaiser cette profonde querelle française au tournant du siècle ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. 7e épisode, révision et désillusion.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus ?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
L'opinion était divisée.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Le récit débute sur l'hippodrome d'Auteuil, le 4 juin 1899. C'est un dimanche et c'est jour de course hippique. C'est même le grand steeplechase de Paris, un événement très mondain où se rend le nouveau président de la République, Émile Loubet. Précisons que Loubet est plutôt favorable à la révision du procès Dreyfus. Et dans la tribune présidentielle, l'ambiance est tendue. Car la veille, la Cour de cassation a rendu un arrêt historique.
Arrêt rendu en audience solennelle par la Cour de cassation le 3 juin 1899. La Cour casse et annule le jugement de condamnation rendu le 22 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris.
Garde à vous !
Et renvoie l'accusé devant le conseil de guerre de Rennes.
Le conseil de guerre !
À se désigner par délibération spéciale prise en chambre du conseil pour être jugé sur la question suivante. Dreyfus est-il coupable d'avoir, en 1894, pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ?
Je le jure, je suis innocent. Donc le 3 juin, la Cour de cassation annule le jugement de 1894.
Milo Lévy-Brul est historien.
Évidemment, là, les anti-Dreyfusards sentent encore plus qu'ils sont en train de perdre du terrain. Le lendemain, il y a un événement à l'hippodrome d'Auteuil, un grand événement auquel le président de la République est invité, une grande course. L'hippodrome, c'est un espace qui est quand même dominé par des classes sociales plutôt anti-Dreyfusards. Et donc, le président Loubet, qui passe pour être favorable à une révision, est hué. La tension commence à monter. Et les policiers qui protègent le président finissent par intervenir pour disperser les anti-Dreyfusards qui manifestaient.
Allez, on refoule, on en va !
Laissant le président à découvert, et le président est frappé par un baron, le baron de Christiani, qui est plutôt d'opinion bonapartiste.
La France était déchirée par l'affaire Dreyfus, en but aux agitations d'un nationalisme virulent.
Joseph Paul Boncour, 1957.
Le président Loubet venait d'être élu président de la République. À Auteuil, un sportman insolent avait défoncé son chapeau d'un coup de canne. Et la mode dans un certain monde avait été porter des breloques qui représentaient un chapeau défoncé.
Le président est frappé, mais il est frappé dans la tribune présidentielle, devant tout le gratin européen. Donc, à travers le coup qui est superficiel, il y a une incarnation, disons, de la fragilité de la République, dans cette violence faite à l'endroit du chef de l'État. Évidemment, les anti-Dreyfusards triomphent. Le chef du gouvernement, le président du Conseil, qui est aussi ministre de l'Intérieur, qui a les deux casquettes, qui s'appelle Dupuis, est fortement mis en cause pour les manquements à la protection du chef de l'État.
Monsieur le préfet ne répondra à aucune autre question aujourd'hui.
Et les anti-Dreyfusards promettent de répéter ce qu'ils viennent de faire le week-end suivant, cette fois-ci à l'hippodrome de Longchamp.
Donc, la Cour de cassation a fini par ordonner qu'on rejuge Dreyfus. Un nouveau procès aura lieu à Rennes, au grand désespoir des nationalistes.
À bas Dreyfus !
Qui veulent continuer à déstabiliser la République en manifestant dès le dimanche suivant sur l'hippodrome de Longchamp. C'est alors que Lucien R., Dreyfusard historique et bibliothécaire de l'École normale supérieure, entre en jeu.
Et c'est là que Lucien R. a un rôle très important, avec les socialistes, avec une partie des socialistes en tout cas, parce qu'ils vont décider de ne pas laisser la rue aux anti-Dreyfusards. Donc ils organisent un rassemblement devant l'hippodrome, qui n'est pas un espace populaire, qui est vraiment un espace occupé par d'autres classes sociales, en disant en fait la République est partout, et si le gouvernement est incapable de la défendre en la personne du président de la République, nous la défendons. Et donc le dimanche suivant convergent, alors c'est difficile de savoir exactement les chiffres, mais entre des dizaines de milliers et des centaines de milliers de manifestants, une grande manifestation populaire avec à la fois les radicaux, une partie des socialistes, le peuple, des faubourgs qui est là. Immense, à tel point que les anti-Dreyfusards ne viennent même pas. Les manifestants acclament le président de la République et ils sifflent Dupuis, le président du Conseil, si bien qu'ils se font charger par la police.
Tirez-vous, les gars de charge !
Et donc Lucien R., pour éviter que les choses ne s'enveniment, décide de transformer le rassemblement en manifestation. Et donc c'est un cortège immense qui s'élance depuis l'hippodrome et qui va défiler sur les Champs-Élysées jusqu'à l'Élysée. Et donc c'est vraiment la manifestation dans la rue, sur ce mode assez nouveau qui est la déambulation, de la force Dreyfusarde. C'est-à-dire que les Dreyfusards, là, c'est plus seulement des gens qui écrivent des pétitions, qui sont potentiellement dans des journaux, dans des ministères, etc. C'est évidemment pas toute la France, mais au moins c'est des masses. Et ce cortège-là, il est conduit par Lucien. Et donc c'est un moment très important.
C'est même un vrai moment de bascule. Car la violence des forces de l'ordre contre cette manifestation républicaine laisse entrevoir à quel point le gouvernement Charles Dupuis est favorable aux anti-Dreyfusards.
Pas 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 pas
et à la Chambre des députés, ça tombe.
Le lendemain, Édouard Vaillant, donc, qui est un député socialiste, va interpeller le gouvernement sur la répression policière de cette manifestation républicaine. Comment ça se fait que la police républicaine a frappé des manifestants qui venaient défendre la République ? En plus, il le fait en s'appuyant sur le témoignage de Lucien R. Donc, le témoignage de Lucien R est cité à l'Assemblée et Édouard Vaillant dit, ça montre bien la position particulière qu'a Lucien R, le témoignage d'une personne dont la moralité ne peut pas être mise en cause, Lucien R. Qui dit la violence dont il a lui-même été victime, la violence policière dont il a lui-même été victime. Et en fait, cette interpellation de Vaillant va provoquer, alors il était déjà extrêmement fragilisé, mais ça va être la goutte d'eau, la chute du gouvernement Dupuy. Et c'est la chute du gouvernement Dupuy qui va entraîner la constitution du gouvernement Valdecrousseau, qui répond à l'injonction qu'avait faite l'Assemblée, à savoir un gouvernement déterminé à défendre les libertés républicaines. Donc ce gouvernement Valdecrousseau, qu'on va appeler le gouvernement de défense républicaine, c'est un moment fondamental de l'histoire de France parce que la majorité change. C'est-à-dire on passe d'une majorité de concentration républicaine, qui réunit plutôt le centre, le centre droit, une partie du centre gauche, à des majorités beaucoup plus à gauche. Et donc on ouvre en fait la séquence qui va aller jusqu'à 1905 et qui va être une période d'immense réalisation républicaine, la loi de 1901, la loi de 1905, etc.
Ainsi, le 12 juin 1899, le gouvernement Dupuy démissionne et laisse sa place au gouvernement de Pierre Valdecrousseau. Un gouvernement dit de défense républicaine. D'abord, voyons avec l'historien Christophe Prochasson, qui est ce Pierre Valdecrousseau.
Pierre Valdecrousseau, c'est un Normand qui est né dans une bonne famille et simplement c'est un de ces libéraux qui croit que la République a apporté des libertés supplémentaires et a assuré l'émancipation des citoyens.
Le gouvernement Valdecrousseau est investi le 22 juin 1899, au moment même où Alfred Dreyfus est en train de traverser l'Atlantique. Il fait route vers la métropole sur un croiseur, le Sfax. Le gouvernement Valdecrousseau, lui, est soutenu par des journaux qui vont au-delà de la presse dreyfusarde. Le nouveau président du Conseil apparaît donc comme l'homme de la situation, pour apaiser les tensions.
Alors lui, c'est un républicain, bien évidemment, c'est un gambettiste, c'est un républicain modéré.
L'historien Philippe Auriol.
Donc on a un vrai républicain et qui va effectivement former ce cabinet de défense républicaine. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait on n'est pas allé le chercher tout de suite, et ça faut pas l'oublier. Parce que d'abord on est allé voir, alors je les ai plus dans l'ordre, mais Deschanel qui a refusé, Poincaré qui a refusé, Casimir Perrier qui a refusé, Brisson qui a refusé.
Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous ?
Tout le monde a refusé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la demande de Loubet, président de la République, c'est de faire le ménage, mais surtout d'en finir avec l'affaire Dreyfus. Et en fait, ça, personne n'a envie de l'affronter. Donc l'idée, ça va être de finir l'affaire, mais aussi de républicaniser l'armée, de faire passer un message très fort au préfet, etc., etc.
Valdecrousseau avait pris le pouvoir. Depuis 10 ans, il vivait éloigné de la politique active.
Témoignage de Joseph Paul Boncourt, 1949.
Plusieurs combinaisons ayant échoué, on avait été le chercher dans son cabinet d'avocat, rue de l'Université, plein d'objets d'art choisis et de ses aquarelles qu'il peignait avec talent et où il gardait le souvenir de ses voyages. La composition inattendue de son ministère ressemblait à une de ses aquarelles. Il y avait conjugué Mirand, premier socialiste entrant au gouvernement, et Gallifet, le massacreur de la Commune. Cela n'alla pas sans remous parlementaire.
Donc en fait, on a un nouveau gouvernement qui arrive et qui est un gouvernement qui est exceptionnel, puisque c'est un gouvernement qui balaye pratiquement tout le prisme politique de l'époque, allant de Galifet, le marquis au talon rouge, le fusilleur de la Commune, absolument anti-Dreyfusard, et Alexandre Millerand, donc socialiste. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la première fois qu'on a un socialiste au gouvernement. Donc voilà, on a cette grande étendue comme ça, avec un gouvernement, bien évidemment, vous l'imaginez, pour les nationalistes, qui va faire hurler tout le monde, et pour les gens de gauche aussi. Enfin, gens de gauche, c'est pas très juste de dire ça à l'époque, mais en tout cas pour les socialistes, parce que comment ce représentant de la classe ouvrière peut-il se retrouver aux côtés du massacreur de la Commune ?
Vive la Commune !
Résumons. Face à la menace de plus en plus pressante des nationalistes qui aspirent à instaurer une république autoritariste, Pierre Waldeck-Rousseau compose un gouvernement qui doit conduire à l'achèvement de l'affaire Dreyfus. Mais ce n'est pas son seul but.
Il y a là une volonté, en effet, encore une fois, de paix sociale, de cohésion nationale, en réunissant autour de lui toutes sortes de forces politiques. Il a d'ailleurs une conception assez moderne de l'État, pourrait-on dire, en accordant à la présidence du Conseil un nouveau rôle, beaucoup plus articulé, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, il faut bien le dire, que ce qu'étaient les présidents du Conseil jusqu'à présent, qui étaient des personnalités qui, chargées d'un portefeuille particulier, coordonnaient ou pas, d'ailleurs, l'action gouvernementale. Là, pas du tout. Là, le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre, sera vraiment un Premier ministre qui pilotera une action politique. Et ça va bien fonctionner, puisque c'est le plus long ministère de l'histoire de la Troisième République, presque 3 ans, qui a fait, il faut bien le dire, des choses très importantes, non seulement du point de vue de l'affaire Dreyfus, en fermant l'affaire Dreyfus, mais aussi en termes de politique sociale et de politique publique, d'ailleurs, de façon très générale.
Mais avant d'engager les réformes pour républicaniser davantage la société, la priorité de Waldeck-Rousseau est très claire.
L'idée, bien évidemment, c'était d'arriver au règlement de l'affaire assez rapidement. C'est-à-dire que l'affaire, plus personne n'en pouvait, plus de cette affaire, qu'il y a l'exposition universelle qui allait arriver, l'inauguration du métropolitain, qu'il fallait absolument qu'on rentre dans l'ordre. En plus, il y avait des menaces dans le monde entier de boycott de l'exposition universelle. Et dans les papiers Waldeck-Rousseau qui sont à l'Institut, il y a un petit papier qui est assez extraordinaire où Waldeck-Rousseau, sont des notes qu'il a prises à la Chambre, pendant que quelqu'un faisait son discours, sans doute, et il note « procès Dreyfus, point d'interrogation », et puis au-dessous, il y a marqué « procès Zola, procès Rénac, procès Picard, trop de procès ». Voilà, et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut en finir.
De son côté, à l'approche des côtes françaises, dans quel état d'esprit se trouve Alfred Dreyfus sur le navire qui le ramène vers le vieux continent.
Souvenir d'Alfred Dreyfus dans 5 années de ma vie, 1901. Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant 5 ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants, autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées. L'aube de la justice se levait encore pour moi.
La fin du calvaire se dessine pour Alfred Dreyfus.
Il quitte l'île du Diable, donc en juin 1999, il rejoint donc la France, la métropole.
Une fois débarqué près de Quiberon dans le Morbihan, des soldats en armes conduisent le capitaine Dreyfus à bord d'un train. Direction Rennes. Mais le convoi s'arrête à l'entrée de la ville. Et c'est M. Richier, un Rennais, qui expliquait les raisons de cette précaution au micro de l'ORTF en 1971.
Nous sommes à 3 km de Rennes, au quartier Saint-Jacques, au passage à niveau. Monsieur Richier, que s'est-il passé là ?
C'est ici que le train qui amenait le capitaine Dreyfus pour la révision de son procès s'était arrêté. Il y avait un fiacre qui l'attendait derrière le passage à niveau et qui l'avait emmené à la prison de Rennes, dans le plus grand secret.
Et pourquoi cela ?
Pour éviter les manifestations, évidemment. Et il y avait des centaines de journalistes qui l'attendaient à la gare de Rennes et qui l'avaient attendu en vain.
et il arrive dans la nuit du 30 juin à la prison militaire de Rennes où il va être jugé un mois plus tard.
Dans la nuit du 1er juillet 1899, on transporte Alfred Dreyfus sans le ménager et dans le plus grand secret, jusqu'à la prison de Rennes. Heureusement, une fois sur place, Dreyfus peut enfin jouir des retrouvailles.
Certes, à la prison militaire de Rennes, les conditions sont quand même difficiles, mais il peut revoir très vite son épouse, et là, c'est un moment très fort.
Vincent Duclerc, historien.
Et Dreyfus est à la fois donc, un être très rationnel, très déterminé, hein, très courageux, il faut le souligner, et en même temps très sensible, très attaché, je veux dire, au contact, à la vie. C'est une personne très riche de ce point de vue-là. Hein.
L'émotion que nous éprouvâmes, ma femme et moi, en nous revoyant, fut trop forte pour qu'aucune parole humaine puisse en rendre l'intensité. Il y avait de tout, de la joie, de la douleur. Nous cherchions à lire sur nos visages les traces de nos souffrances. Nous aurions voulu nous dire tout ce que nous avions sur le cœur, toutes les sensations comprimées et étouffées pendant de si longues années. Et les paroles expiraient sur nos lèvres. Nous nous contentâmes de nous regarder, puisant dans les regards échangés toute la puissance de notre affection, comme de notre volonté.
Et donc les retrouvailles, le fait de pouvoir serrer Lucie dans ses bras, de l'embrasser, c'est extrêmement important pour lui. C'est un rêve qu'il avait. Et en fait, il a aussi tenu à l'île du diable par cet imaginaire, l'imaginaire du bonheur, l'imaginaire de ses enfants. Il avait pu garder une photo hein, de sa femme et de ses deux enfants. Et pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement important qui vraiment lui donne beaucoup de courage aussi pour agir.
Visite.
Dès le 3 juillet, Alfred Dreyfus retrouve aussi son frère Mathieu, ainsi que ses deux avocats.
Yes, Laborie.
Maître Demange et Maître Laborie. Aussitôt, ils se mettent au travail. Il faut préparer la défense du capitaine, car ce second procès militaire n'est pas gagné d'avance.
Le général Mercier, dans le journal L'Intransigeant, le 4 août 1899. Dreyfus sera sûrement condamné de nouveau. Car dans cette affaire, il y a sûrement un coupable. Et ce coupable, c'est lui ou c'est moi. Comme ce n'est pas moi, c'est Dreyfus. À huis clos ou publiquement, je parlerai et je dirai tout. Dreyfus est un traître. Je le prouverai.
L'ouverture de ce procès en révision est prévue pour le 7 août 1899. En ville, les anti-Dreyfusards sont nombreux. Un été sous haute tension pour la capitale bretonne.
Mathieu Dreyfus, dans l'affaire telle que je l'ai vécue. Rennes a toutes les apparences d'une ville assiégée. Les rues sont remplies de soldats, de gendarmes.
Allez, ouf, on circule. Allez.
Des patrouilles à cheval circulent incessamment dans les grandes artères. Le lycée où siégera le conseil de guerre est occupé militairement, comme une forteresse. Personne n'y peut pénétrer. On craint, me dit-on, qu'on y place une bombe.
Alors pour quelle raison le gouvernement a-t-il choisi cette ville de Rennes pour ce second procès ?
Alors cette ville de Rennes, c'est encore une manœuvre pour complaire, disons, à l'aile nationaliste et militaire de la République. Hein. Valdez-Crousseau a réussi à composer une majorité de défense républicaine, mais c'est fragile, il doit faire des concessions. Donc le choix de Rennes, hein, qui est le choix en fait, de son ministre de la guerre, qui est quand même très anti-Dreyfusard, hein, mais que Valdez-Crousseau a choisi pour rassurer l'armée, hein, bien évidemment. Bon. Le procès qui se déroulera à Rennes, c'est un procès qui donc, se déroule dans une ville très catholique, et donc réputée anti-Dreyfusard, même si tous les catholiques ne seront pas anti-Dreyfusard. Il y a des catholiques Dreyfusard courageux qui avaient étudié Jean-Marie Meyer, et une ville donc militaire aussi. Et donc ça veut dire un environnement défavorable aux Dreyfusard. Du reste, l'avocat Laborie sera victime de tentative d'assassinat lorsqu'il se rend au procès.
Bonjour Laborie. Alors, prêt pour le combat?
Ah, en pleine forme. Picard, nous allons faire sauter le général Mercier jusqu'au ciel. Avec le formidable arsenal que vous m'avez fourni.
Oh mon Dieu.
Oh. Au secours! À l'aide!
Après avoir reçu une balle dans le dos, l'avocat Laborie survit à cet attentat et parvient même à reprendre sa place auprès de Dreyfus dans ce procès hors du commun, relayé dans le monde entier.
Il y a une couverture presse considérable, presse française, presse régionale, presse mondiale. La reine d'Angleterre envoie son Lord Chief in Justice. Enfin, c'est un des grands événements internationaux donc, qui dépasse les frontières, qui dépasse les États. Tout le monde se passionne effectivement pour le sort du capitaine Dreyfus.
Avant d'affronter à nouveau ses juges militaires, Alfred Dreyfus a découvert toute l'ampleur de la machination dont il a été victime depuis 1894.
Souvenir d'Alfred Dreyfus dans 5 années de ma vie, 1901. Maître Desmanges me fit succinctement le récit de l'affaire. J'écoutais haletant, et dans mon esprit peu à peu s'enchaînèrent tous les anneaux de cette dramatique histoire. Ce premier exposé fut complété par Maître Laborie. J'appris la longue suite de méfaits, de scélératesse, de crimes constatés contre mon innocence.
Puisque Dreyfus est coupable, de toute façon, nous en avons l'intime conviction. On peut décider de trouver des preuves.
J'appris les actes héroïques, le suprême effort tenté par tant d'esprits d'élite.
Devant la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent!
La superbe lutte entreprise par une poignée d'hommes de grand cœur et de grand caractère contre toutes les coalitions du mensonge et de l'iniquité.
Mais puisqu'il est innocent, innocence. Si vous ne dites rien, personne ne le saura.
Pour moi qui n'avais jamais douté de la justice, quel effondrement de toutes mes croyances. Mes illusions à l'égard de quelques-uns de mes anciens chefs s'envolèrent une à une. Mon âme s'emplit de troubles et de douleurs. Je fus saisi d'une immense pitié, d'une grande douleur pour cette armée que j'aimais.
Même pas eu l'élégance de creuser au paille. Non, on nous le renvoie pour un nouveau procès, Dreyfus.
Et durant tout le mois de juillet, depuis sa cellule militaire, le capitaine a préparé sa défense.
Pendant un mois, il va accéder à tout son dossier et il va découvrir qu'il y a effectivement une affaire. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus, c'est deux choses. C'est à la fois une gigantesque machination, à la fois contre Dreyfus, mais aussi contre les institutions, contre la justice, contre la vérité. Et puis c'est aussi effectivement cette affaire publique hein, et cette affaire politique qui va passionner à la fois la France, mais aussi le monde. Hein. Et donc, il va maîtriser en fait toutes ces dimensions-là, ce qui montre aussi sa capacité d'analyse. Et au procès de Rennes, hein, il va se montrer extrêmement précis et très argumenté sur sa défense. Hein. Mais on lui reprochera eh bien, de ne pas émouvoir et d'être trop logique dans ses arguments. Et il aura cette phrase, hein, « Seul un coupable cherche à apitoyer » et que lui, eh bien, c'est la démonstration de son innocence qui compte.
Ce procès en révision s'ouvre devant le Conseil de guerre de Rennes avec une particularité qu'il faut avoir à l'esprit. Une particularité relevée par l'historien Pascal Horry dans un reportage à la télévision en 1982.
Tout le monde, tous les Français connaissaient l'affaire Dreyfus, l'affaire du siècle, mais au fond, connaissait-on vraiment le personnage, l'homme ?
Non, en dehors de la famille de Dreyfus, même les Dreyfusards ne connaissaient pas physiquement Dreyfus. Et vous vous rendez compte de l'émotion qui pouvait saisir aussi bien les anti-Dreyfusards que les Dreyfusards en ce jour de lundi 8 août 1899, quand dans cette salle devant laquelle nous sommes est entré Dreyfus en chair et en os.
Non.
Alfred Dreyfus.
Parlez plus fort.
Alfred Dreyfus.
C'est certain que lorsqu'il arrive au procès, eh bien, on s'attendait à voir un homme flamboyant, et puis on voit un homme très maigre, vieilli prématurément, qui flotte dans son uniforme, qui s'exprime avec une voix qui n'est pas une voix qui attire la sympathie. Hein. Et donc il y a beaucoup d'appréhension négative contre Dreyfus, malheureusement. Hein.
Lettre du peintre Hermann Pohl au journaliste Gaston Calmette lors du procès de Rennes 1899. Dreyfus est terrible à voir. C'est la statue du remords. Il est voûté, les genoux pliés, les bras ankylosés. Le premier jour, il était livide, et quand il s'est levé pour protester de son innocence...
Je suis innocent.
Cette voix étranglée et cette bouche sans salive, les sanglots étouffés dans sa gorge, ses mains tremblantes et ses jambes grelottantes, en faisaient l'image du désespoir et il représentait réellement la victime.
Et lui-même, justement, argumente sans...
Sans effet de manche.
Sans effet de manche. Hein. Et il a raison de le faire, comme il l'a dit. Seul un coupable tente d'apitoyer. Mais voilà, on est aussi dans une société, ça mène du spectacle, et Dreyfus n'est pas un très bon client pour cela.
Oui, j'ai compris depuis. On s'attendait à de grands gestes, à de grands éclats de voix, à ce que je fusse en un mot plus théâtral, au lieu de discuter pied à pied, sans rien laisser dans l'ombre, tout l'immense amas de menus faits qu'on avait accumulé contre moi. Dans l'état d'épuisement où je me trouvais, cela exigeait toute l'attention de mon esprit, ne me permettant pas de me laisser aller à l'émotion.
Elle me fascine, cette attitude, en fait. Elle est assez incroyable et elle est tout Alfred Dreyfus. Dreyfus, c'est un scientifique, c'est un polytechnicien. C'est quelqu'un qui ne croit qu'en une chose, qui est la raison. La passion n'est pas son truc. Il écrira une très très belle page là-dessus, d'ailleurs, sur ce qu'on attendait de lui et ce qu'il n'avait absolument pas l'intention de donner. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne correspondait pas à son tempérament. Et la seconde raison, c'est tout simplement qu'il en était rigoureusement incapable. Donc Dreyfus, c'est quelqu'un qui discute. C'est quelqu'un qui prouve, quelqu'un qui démontre, quelqu'un qui réfléchit, etc., etc. Et les grands effets de manche, les pleurs, les cris, les hurlements, c'est pas son truc. Alors on connaît l'anecdote célèbre d'André Antoine, le grand metteur en scène qui est là et qui, après avoir entendu Dreyfus parler, dit quelque chose du genre « il gâche le rôle et à sa place j'aurais fait quelque chose de formidable ». Il a sans doute raison, mais en fait c'était pas ça le problème. Et voilà. Et l'anecdote la plus extraordinaire, c'est quand à un moment on demande à Dreyfus de parler de l'île du diable, il refuse absolument d'en parler, en disant qu'il n'est pas là pour faire pleurer avec ses souffrances, mais qu'il est là tout simplement pour qu'à la fin, on ne discute plus jamais de son innocence. Et donc, c'est une stratégie qui, d'un point de vue purement tribunalesque, n'est probablement pas d'une grande habileté, puisqu'on sait très bien qu'un procès, ça se joue sur autre chose. Mais pour Dreyfus, il n'en est pas question. C'est-à-dire que c'est pas à lui d'entrer dans ce jeu-là, c'est aux autres d'entrer dans son jeu qui est le seul possible.
Je n'ai jamais voulu faire appel à la pitié. Je n'en avais nul besoin. C'est moi qui ai de la pitié pour les hommes qui se sont déshonorés en faisant condamner un innocent par les moyens les plus criminels.
Au nom du peuple français, en ce 9 septembre 1899, le Conseil de guerre permanent de la 10e région de corps d'armée a déclaré le nommé Dreyfus Alfred à la majorité de 5 voix contre 2 coupable de haute trahison. Toutefois, à la même majorité sont votées des circonstances atténuantes. En conséquence de quoi, la Cour commue la sentence à 10 ans d'emprisonnement.
J'avais rêvé la réparation d'une effroyable erreur judiciaire et j'avais vu des hommes égarés par leur passion, par l'esprit de parti, peut-être par des manœuvres criminelles perpétrées dans l'ombre, jugés contre la vérité et la justice. Si grand que fût mon épuisement physique, si profond que fût mon chagrin, je n'avais pas le droit de me laisser aller au découragement. Il me fallait tout mon honneur, pour mes enfants comme pour moi.
Le verdict, Vincent Duclerc ?
Alors le verdict est intéressant parce que c'est une condamnation donc à 10 années d'emprisonnement avec circonstances atténuantes. Donc c'est assez étonnant parce qu'on comprend mal effectivement quelles sont les circonstances atténuantes. Hein. Donc on voit bien que c'est un verdict de compromis hein, avec, et ça il faut le souligner, deux juges militaires dont le président de la cour hein, qui vote l'acquittement. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Du reste, ces militaires vont être ensuite mis au banc de l'armée alors qu'ils ont effectivement agi de manière extrêmement courageuse et conforme au droit, conforme à la vérité et conforme à l'honneur militaire. Et en fait, il y a une énorme émotion quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation avait renvoyé à un conseil de guerre pour que la justice militaire ait finalement le privilège hein, d'acquitter et de revenir sur son erreur. Voilà, c'était ça. Enfin, son erreur, ou plutôt, je veux dire, sa faute. Donc c'était une élégance qui était accordée à la justice militaire, alors que la Cour de cassation pouvait casser sans renvoyer, dire Dreyfus est innocent et il n'a pas lieu de tenir un nouveau procès. Et en fait, ce procès qui, là pour le coup, est bien organisé par les accusateurs de Dreyfus. Hein.
La parole est au général Mercier.
Je suis un honnête homme et le fils d'un honnête homme. Et si le plus léger doute m'avait jamais traversé l'esprit, je serais le premier à le déclarer, à dire au capitaine Dreyfus, je me suis trompé.
Et c'est ce que vous devriez dire!
Mais ce n'est pas le cas. Depuis 1894, rien n'est venu ébranler ma conviction. En fait, elle s'est plutôt trouvée renforcée par les efforts pathétiques pour plaider l'innocence de Dreyfus. Sans parler de tous les millions dépensés pour lui par la juiverie internationale.
Ce procès reprend une série d'éléments que la Cour de cassation avait jugés comme relevant de la machination en particulier. Et en fait, le procès aboutit à ce verdict qui est un scandale. Et c'est une honte nationale. Les gens sont stupéfaits à tel point que la solution à laquelle Valdez-Crousseau, le Premier ministre, aboutit, c'est-à-dire de demander la grâce au président de la République, la grâce de Dreyfus, et font très vite accepter, à la fois par le président de la République, hein, qui ensuite signe la grâce, et puis par l'ensemble de l'opinion, qui est soulagée, finalement, que le capitaine Dreyfus puisse retrouver sa liberté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le capitaine Dreyfus, au départ, avait refusé cette grâce, parce que la grâce signifie le pardon, signifie d'une certaine manière qu'il reste coupable et que le président de la République, la France, le pardonne. Eh bien, c'est pas ça. Et donc, il y a une déclaration très forte du capitaine Dreyfus, qui est au fond rédigée, on le sait, par Jean Jaurès. Hein.
Le gouvernement de la République me rend la liberté. Elle n'est rien pour moi sans l'honneur. Dès aujourd'hui, je vais continuer à poursuivre la réparation de l'effroyable erreur judiciaire dont je suis encore victime. Je veux que la France entière sache, par un jugement définitif, que je suis innocent. Mon cœur ne sera apaisé que lorsqu'il n'y aura plus un Français qui m'impute le crime abominable qu'un autre a commis.
Monsieur le commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance.
Et peut-être précisons que Dreyfus a choisi aussi d'accepter la grâce hein, parce que s'il était à nouveau effectivement détenu même dans une prison française, dans l'état d'épuisement où il était, il pouvait mourir. Or, la mort arrête l'action publique, c'est-à-dire que dès lors qu'il est mort, il n'y a plus de réhabilitation possible. Aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, il n'y avait pas de réhabilitation posthume. Donc, si Dreyfus mourait, il serait resté coupable. Donc, il a compris aussi qu'il fallait vivre pour regagner son honneur et sa vérité.
Une fois de plus, pour l'honneur de mon nom et pour mes enfants, mon colonel, je le jure, je suis innocent.
Récapitulons. Le 3 juin 1899, la Cour de cassation avait ordonné la révision du procès Dreyfus dans le but d'offrir à l'armée française une occasion facile de se rattraper sans perdre la face. Mais le 9 septembre 1899, la justice militaire condamne à nouveau Dreyfus,
coupable de haute trahison,
pour intelligence avec l'ennemi. Une décision ahurissante. Ce désastre judiciaire et politique plonge les Dreyfusards dans un profond désespoir.
Article d'Émile Zola, paru dans l'Aurore, le 12 septembre 1899.
Je suis dans l'épouvante.
Et ce n'est plus la colère, ce n'est plus l'indignation vengeresse, le besoin de crier le crime, d'en demander le châtiment, c'est l'épouvante.
Je suis dans l'épouvante. Et ce n'est plus la colère, l'indignation vengeresse, le besoin de crier le crime, d'en demander le châtiment au nom de la vérité et de la justice. C'est l'épouvante. La terreur sacrée de l'homme qui voit l'impossible se réaliser. Les fleuves remonter vers leur source, la terre sous le soleil. Et ce que je crie, c'est la détresse de notre généreuse et noble France. C'est l'effroi de l'abîme où elle roule.
Malgré ce verdict cruel et infamant du procès de Rennes, Émile Zola estime qu'il existe cependant quelques raisons de se réjouir de cette nouvelle situation pour la famille Dreyfus.
Lettre à Madame Alfred Dreyfus, parue dans l'Aurore le 29 septembre 1899. Madame, on vous rend l'innocent, le martyr. On rend à sa femme, à son fils, à sa fille, le mari et le père. Et ma première pensée va vers la famille réunie enfin, consolée, heureuse. Quel que soit encore mon deuil de citoyen, malgré la douleur indignée, je vis avec vous cette minute délicieuse, trempée de bonnes larmes. La minute où vous avez serré dans vos bras le mort ressuscité, sorti vivant et libre du tombeau. Et, quand même, ce jour est un grand jour de victoire et de fête.
Ce jour de victoire et de fête, c'est la libération d'Alfred Dreyfus. Grâce aux manœuvres de Pierre Valdec-Rousseau, le président de la République, Émile Loubet, signe la grâce du capitaine Dreyfus le 19 septembre 1899.
Valdec-Rousseau, justement au pouvoir, avait donné à Dreyfus sa grâce et Dreyfus l'avait acceptée.
Témoignage du Dreyfusard Robert Debray, 1974.
Nous supportions très mal cette acceptation de la grâce.
Valdec-Rousseau nous garantit la grâce. Il n'ira pas en prison.
La grâce ?
Mais on ne gracie que les coupables.
Mais s'il reste en prison, il mourra. Pour sa femme et ses enfants, il doit vivre.
Je crois me rappeler que Jaurès trouvait qu'elle était juste, que cet homme épuisé, vraiment, ne pouvait plus supporter une continuation de ses souffrances injustes.
Je crois qu'il faut d'abord sauver l'homme nommé Alfred Dreyfus.
Mais nous étions jeunes et intolérants, et ça ne nous paraissait pas acceptable. Il nous paraissait beaucoup mieux qu'il restât en prison jusqu'au jour où l'on obtiendrait son acquittement, sa réhabilitation, et que l'acceptation de la grâce n'était pas bonne.
Comment réagissent les Dreyfusards, Vincent Duclerc, à cette grâce présidentielle? Ça va créer de grandes tensions entre eux.
Alors ça va créer de grandes tensions, alors même que tous les Dreyfusards sont d'accord au départ pour que Dreyfus accepte la grâce. Et on le sait, Clémenceau, donc, en particulier, accepte la grâce lui aussi. Et là, on voit effectivement comment des Dreyfusards ont pu se séparer de l'homme Dreyfus et même de l'objectif de la justice, hein, dans la mesure où l'acceptation de la grâce va apparaître comme celle, au fond, d'un homme petit bourgeois, pensant d'abord à son confort et oubliant le grand combat pour la justice et la vérité. Et en fait, c'est faux, puisque précisément, par donc cette liberté retrouvée, Dreyfus va aller dans ce sens. Le capitaine Dreyfus, dans ses mémoires, sera très élégant, c'est-à-dire va pas revenir en fait sur les attaques de certains Dreyfusards. Mais beaucoup d'autres lui restent fidèles, hein. C'est très important. Jean Jaurès, notamment Émile Zola, vont considérer qu'on peut à la fois comprendre un homme et mener un combat. Et ça, c'est très important. Et Zola, jusqu'à sa mort, et Jaurès, donc, en 1903, relance l'affaire, hein, pour permettre ensuite à ce que la Cour de cassation se ressaisisse du dossier du procès de Rennes.
Alfred Dreyfus vient de recevoir une grâce présidentielle. Il dormira chez lui ce soir, en âme libre.
Donc, Dreyfus a été gracié. Et par ailleurs, ayez en tête que ce verdict absurde, qui annonce des circonstances atténuantes, répond aussi à une logique d'apaisement, car il contente une grande majorité des Dreyfusiens, autrement dit, les Dreyfusards modérés, qui souhaitent refermer l'affaire
et passer à autre chose.
La condamnation avec les circonstances atténuantes, bah, ça satisfait tout le monde, parce que le coupable est coupable.
Philippe Auriol.
Et l'innocent, probablement, va être gracié derrière, parce que c'est la logique, et qui va, bien évidemment, comme toujours dans ces affaires-là, aboutir à une amnistie qui va permettre de tout régler, quoi.
L'amnistie ? Mais vous renvoyez tous à dos les victimes et les coupables !
Et donc, on va en finir avec l'affaire Dreyfus, et il n'y aura plus de procès. Et donc, on met sur un pied d'égalité les innocents et les coupables, les victimes et les bourreaux. Et donc, tous les responsables s'en sortent tranquillement. Et les victimes, par contre, non.
Avec le vote de cette loi d'amnistie pour tous les crimes et délits liés à l'affaire Dreyfus, les véritables coupables ne seront jamais jugés et encore moins condamnés.
On vote une loi d'amnistie pour empêcher que Mercier, Dupatie de Clam ne soient inquiétés.
RTF, Maître Floriot, 1958.
Pour empêcher également que Leblois et Picard ne puissent eux-mêmes demander réparation du préjudice qui leur a été causé.
Dans sa logique de paix sociale, Pierre Valdec-Rousseau veut jouer la carte de l'oubli pour refaire société et ne pas rester dans le conflit. Par cette amnistie, il veut sortir la France de l'affaire avec des objectifs très concrets.
Alors, en fait, Valdec-Rousseau a conscience qu'il a besoin de ce moment. Il a besoin aussi de faire en sorte que l'exposition universelle se déroule bien. Que des réformes aussi, parce que Valdec-Rousseau a des réformes importantes qu'il veut mener, notamment la réforme permettant la liberté d'association, qui est fondamentale. Les associations étaient interdites, d'où effectivement, par exemple, les poursuites contre la Ligue des droits de l'homme. Donc la loi de 1901 sur la liberté d'association est fondamentale. Elle prépare aussi la loi de 1905 sur la liberté de conscience, et donc la séparation des Églises et de l'État. Valdec-Rousseau ose également réformer, mais pas autant qu'il le souhaiterait, mais le haut appareil militaire. Valdec-Rousseau a une approche extrêmement constructive des grandes grèves ouvrières. Donc son ministère, le ministère de la Défense républicaine, est quelque chose de tout à fait important que Dreyfus soulignera à travers des déclarations en montrant que son affaire a permis aussi des progrès sociaux, des progrès intellectuels. Et ça, Valdec-Rousseau y est attaché. Donc, au fond, on clôt temporairement la dimension judiciaire de l'affaire Dreyfus pour permettre à ce que les enseignements de cette grave crise soient tirés et que des réformes importantes soient réalisées.
Chez Valdec-Rousseau, il y a toujours le souci de la négociation. Et d'ailleurs, c'est bien lui qui a obtenu la grâce de Dreyfus, malgré le verdict de Rennes et les vives tensions au sein de son gouvernement.
L'affaire Dreyfus a déjà fait trop de mal au pays. Il faut que cela cesse.
Enfin, quelques semaines après la grâce et la loi d'amnistie, Pierre Valdec-Rousseau inaugure à Paris, le 19 novembre 1899, une nouvelle statue, place de la Nation. L'occasion d'une grande fête républicaine.
C'est sous sa présidence du Conseil que va être inaugurée la fameuse statue de Jules Dalou, qui se trouve à la Nation et qui s'intitule « Le triomphe de la République ».
Christophe Prochasson.
Donc la statue est inaugurée au mois de novembre 1899 et c'est l'occasion pour Péguy d'en faire un récit absolument magnifique dans sa revue Les Cahiers de la Quinzaine, où il montre, c'est ça qui fascine Péguy, la République. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation énorme, énorme. J'aime beaucoup cette formule où Péguy dit « c'était tellement beau, en fait, cet unanimisme républicain, cet enthousiasme républicain, qu'on aurait aimé se mettre au bord du trottoir pour se voir passer dans la rue ». C'est-à-dire que c'est cette double position du citoyen actif et du citoyen qui se regarde dans son action politique.
Charles Péguy, dans les Cahiers de la Quinzaine.
Quelques-uns commencèrent à chanter « Vive Dreyfus ». Un cri qui n'a pas retenti souvent, même dans les manifestations purement dreyfusardes. Ce fut extraordinaire. Vraiment, la foule reçut un coup, eut un sursaut. Elle ne broncha pas, ayant raisonné que nous avions raison, que c'était bien cela. Même elle acquiesça, mais il avait fallu un raisonnement intermédiaire, une ratification raisonnée. Dans le cortège même, il y eut une légère hésitation. Ceux-là même qui avaient lancé ce cri sentirent obscurément qu'ils avaient lancé comme un défi. comme une provocation. Puis, nous continuâmes avec acharnement, voulant réagir, manifester, sentant brusquement comme l'acclamation au nom de Dreyfus, l'acclamation publique, violente, provocante, était la plus grande nouveauté de la journée, la plus grande rupture, la plus grande effraction des sceaux de ce siècle. Aucun cri, aucun chant, aucune musique n'était chargé de révolte enfin libre comme ceux vive Dreyfus.
Donc ça, ça se fait sous Waldeck-Rousseau, et je crois qu'en effet, ça marque quelque chose d'important. Alors, y compris d'ailleurs du point de vue de la laïcité, puisque Waldeck-Rousseau, qui n'était pas un anticlérical forcené, mais malgré tout convaincu aussi, comme beaucoup de ces républicains qui étaient passés par Gambetta, que bon, l'Église c'est bien, mais à sa place en quelque sorte. Hein. Lui était là aussi sur ce front de la laïcité, tout de même assez présent en bon gambettiste qu'il était.
À l'automne 1899, Waldeck-Rousseau est parvenu à sortir la République de l'ornière. Mais pour ne pas raviver les plaies, son gouvernement interdit en fin d'année le nouveau film de Georges Méliès, intitulé « L'affaire Dreyfus ». De son côté, malgré l'immense désillusion après le verdict de la révision, Alfred Dreyfus a tout de même retrouvé sa liberté. Et dès l'automne 1899, il en profite.
J'éprouvais une vive joie en roulant en chemin de fer, de voir défiler devant moi prés et champs. Tout m'amusait, tout m'intéressait. Il me semblait renaître à la vie.
Il va prendre le train avec son frère et puis avec un journaliste reporter et en fait il va un peu traverser la France pour aller jusqu'à Carpentras. Donc c'est un voyage assez émouvant parce que ben, c'est les premières heures hein, d'un homme libre après tant d'épreuves. Il retrouve, il redécouvre la liberté. C'est un moment très fort et puis donc il va à Carpentras chez sa sœur et son beau-frère. Hein. Il va rester plusieurs semaines. C'est là où il va retrouver enfin Lucie, enfin qu'il avait déjà retrouvé à Rennes, mais qu'il va retrouver ses enfants. Et donc là, à Carpentras, dans une propriété, donc à l'abri des regards, dans un grand jardin, il va pouvoir réapprendre à vivre, mais aussi il se remet au travail. Hein. Dreyfus se remobilise pour gagner la bataille de la réhabilitation.
En conclusion de ce septième épisode, retenez d'abord que l'armée française a refusé de sauver son honneur durant ce procès de Rennes en 1899.
Le conseil de guerre permanent de la 10e région de corps d'armée a déclaré le nommé Dreyfus Alfred coupable de haute trahison.
Acquitter Dreyfus, c'eût été reconnaître dignement ses torts. Or, ce verdict absurde demeure une tâche infamante dans notre histoire nationale. Cependant, il faut ajouter que ce curieux verdict de Rennes a sans doute aussi permis de refermer cette violente querelle française. C'était la mission et la volonté de Pierre Waldeck-Rousseau. Enfin, gardez en tête que la grâce accordée au capitaine Dreyfus n'a pas mis fin à son combat.
L'arrêt du Conseil de guerre constitue la vérité légale. L'avenir, s'il le peut, se chargera de la vérité historique.
Comment Alfred Dreyfus, malgré la haine tenace des nationalistes, va réussir à décrocher sa réhabilitation, c'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Clotilde de Bézère, Denis Podalides et Éric Ruff, sociétaires de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, la réhabilitation du capitaine. Alfred Dreyfus, le combat de la République, est un podcast original de France Inter.